Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le Vatican à l'heure du foot, ce mardi, le pape François recevait les équipes nationales d'Argentine et d'Italie. Il a invité les joueurs à être des modèles de loyauté, de respect et d'altruisme. Le Saint-Père a par ailleurs demandé aux dirigeants de faire disparaître la violence et revenir les familles dans les stades. C'est la une de cette émission. Vous entendrez le vicaire patriarcal de Jérusalem dans ce magazine à quelques heures d'un nouveau round de négociations israélo-palestiniennes après 3 ans de blocage et plus de 6 décennies d'un conflit historique. Nous lui avons demandé quelles étaient les attentes des chrétiens. Au puits, à Lourdes, à Paris, des milliers de fidèles sont attendus dans les lieux de culte marial pour la fête de l'Assomption. Nous verrons que la prière pour la France, récitée depuis des siècles suite aux vœux de Louis XIII, suscite des débats. Les délégations des équipes nationales de football d'Argentine et d'Italie ont été reçues ce mardi matin au Vatican, à la veille de leur match amical au stade olympique de Rome, en hommage au pontificat du pape François lui-même, grand amateur de football. L'audience s'est déroulée dans la salle Clémentine du palais apostolique, en présence de 200 personnes, des joueurs des deux formations et des dirigeants sportifs des deux pays. Un échange entre vrais amateurs de football face au Saint-Père, deux légendes, les capitaines italiens et argentins Gianluigi Buffon et Lionel Messi. Le pape François n'assistera pas au match de mercredi, mais il a voulu lancer un appel aux joueurs. Avant d'être des champions, leur a-t-il dit, vous êtes des êtres humains, restez-le dans le sport et dans la vie, des hommes porteurs d'humanité. Le compte-rendu d'Antonino Gallofaro.
Les footballeurs sont très populaires sur le terrain comme en dehors. En découle donc, selon le pape, une responsabilité sociale et des implications. Il faut que sur le terrain, il y ait 3 éléments clés, la beauté, la gratuité et la camaraderie. Une responsabilité des joueurs même, et pour le pape, tout cela se résume en un seul mot.
Dilettante, amateur.
C'est vrai que l'organisation nationale et internationale professionnalise le sport, et ça doit être comme ça. Mais cette dimension professionnelle ne doit jamais laisser de côté la vocation initiale d'un sportif ou d'une équipe, être amateur.
C'est seulement ainsi que les joueurs peuvent faire du bien à la société, explique François. Mais sans oublier qu'ils ne sont que des êtres humains, dans le sport comme dans la vie. Le capitaine et gardien de l'équipe nationale italienne, Gianluigi Buffon, est néanmoins bien conscient de son rôle de modèle.
Une personne, un sportif, devrait essayer de garder inaltérée cette passion, cette vocation qui, enfant, l'a rapproché à la discipline qu'il est en train de pratiquer. Cette passion et cette vocation qui n'est pas une fille du business.
Le business, un grand business même, c'est ce qu'est devenu le football, explique François. Aux dirigeants, le pape a demandé que ce sport soit un vrai sport. Il faut qu'il garde son caractère sportif. Ainsi, le stade s'enrichirait humainement, la violence disparaîtrait et les familles reviendraient dans les tribunes. La réaction de Cesare Prandelli, le sélectionneur de l'équipe d'Italie.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup, mais nous tous, à un niveau individuel. Du moment qu'on sent qu'il y a une tension particulière, on doit avoir une réaction d'indignation. Même le seul spectateur peut faire quelque chose. On ne peut pas faire de grands discours. Je pense que ce sont les comportements qui peuvent être une référence.
Italie-Argentine, mercredi soir, difficile pour le pape argentin de soutenir l'une ou l'autre équipe, il l'avoue lui-même. Heureusement, dit-il, que c'est un match amical.
J'ajoute que le souverain pontife a demandé aux joueurs de prier pour lui afin qu'il puisse lui aussi jouer un match honnête et courageux sur le terrain où Dieu l'a placé. L'audience a été marquée par un geste fortement symbolique. Le Saint-Père a béni un olivier qui sera planté d'abord au stade olympique de Rome à l'occasion du match amical, puis dans les jardins du Vatican. En l'an 2000 à Buenos Aires, lorsqu'il était archevêque de la ville, le cardinal Bergoglio, entouré de représentants des autres religions, avait planté un olivier sur la célèbre place de mai. Le Vatican est sur le bon chemin en matière de transparence financière. C'est le directeur de l'AIF, l'autorité d'information financière du Saint-Siège, qui l'a affirmé sur notre antenne. René Brulhart précise que le récent motu proprio du pape François sur la lutte contre le blanchiment n'a pas apporté de gros changements. Ce décret complète le précédent en renforçant le champ d'action de l'AIF et c'est un nouveau signal très positif. Il était essentiel, selon lui, de créer les instruments permettant d'intervenir pour éviter ou contrecarrer d'autres scandales. L'AIF contrôle désormais toutes les activités financières des différentes institutions du Vatican, à commencer par l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, et par l'APSA, l'administration du patrimoine du siège apostolique. Il y a des pas qui restent à accomplir, mais le directeur de l'AIF met en garde contre des expectatives déplacées. Enfin, pour lui, l'IOR n'est pas une vraie banque, il s'agit plutôt d'un institut financier particulier au service du Saint-Siège. Pourquoi prier pour la France ? C'est le thème d'un colloque organisé ce mardi au sanctuaire du Puy-en-Velay, à 2 jours de la solennité de l'Assomption. Chaque année, des prières pour la France sont dites le 15 août. Une tradition qui se répète depuis le XVIIe siècle, lorsque Louis XIII décida de consacrer la nation française à Marie. Après le débat suscité par l'appel lancé l'année dernière par le cardinal André XXIII, dans le cadre de la mobilisation contre le mariage pour tous, des interrogations ont été soulevées autour de cette prière pour la France le 15 août. Parmi les intervenants, le père Bernard Pérousse, recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, membre de la communauté de l'Emmanuel, spécialiste en histoire de la spiritualité.
Il est nécessaire de prier pour le pays parce que la situation actuelle est une situation qui est délicate et qui pourrait devenir dangereuse. Si les lois actuelles sont maintenues, ça peut avoir des conséquences qui sont très graves, hein, de façon diverse. Donc on voit bien en France à l'heure actuelle et sous des formes diverses qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à prier pour la France. Et dans des milieux très différents. La France est un pays qui a une vocation au sens d'un appel de Dieu, tel que d'ailleurs vous pouvez en trouver une très bonne expression dans ce que le pape Jean-Paul II avait dit au Bourget en 1980. France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? Et donc la question c'est de savoir quel est cet appel.
En quoi certaines lois de la France font peut-être qu'elle ne peut plus être un guide pour l'Église ?
La France est un pays qui est dans un combat, comme tous les pays européens. À l'heure actuelle, nous avons des projets qui veulent changer la civilisation. Après, je ne remets pas du tout en cause le rôle de fille aînée de l'Église pour la France, absolument pas. Je pense que la fille aînée de l'Église, c'est un enfant comme les autres, qui fait des bêtises comme les autres. Mais je pense que son rôle de fille aînée, c'est aussi d'essayer de trouver des solutions, la première si elle le peut.
Dans un pays laïque comme la France, est-ce que ce genre de prière qui appelle forcément à, disons, respecter une certaine code, certaines valeurs, ça ne peut pas renforcer certains fossés entre des croyants et des non-croyants ?
Je pense que les mots sont piégés. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un pays laïque ? Si c'est une laïcité positive, alors à ce moment-là, toutes les croyances doivent être respectées, dont le catholicisme, qui est, un, la croyance de la majorité des Français, et deuxièmement, en France, on ne peut pas chasser Dieu de la culture. Culturellement, la France est un pays où Dieu ou la religion catholique a une place importante. Et le christianisme en général, on ne peut pas en faire l'économie. À ce moment-là, ça demande d'être respecté. Dans les affaires qui nous occupent, la division laïcité-pas-laïcité est complètement dépassée. Il est normal dans un contexte comme ça que les catholiques fassent entendre leur voix. Les non-catholiques ne se privent pas de la faire entendre, ils ont bien raison.
Est-ce qu'une prière, elle peut éviter d'être politique ou elle doit forcément être politique dans un contexte
non.
comme celui-ci ?
Non, la prière n'a pas à être politique. Hein. Dieu fait pas de politique, il est Dieu. La prière est bien au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a un moment où un pays a vraiment besoin de la miséricorde de Dieu. Après, que les citoyens s'engagent en matière politique, ça c'est normal et c'est sain. J'espère que la situation actuelle du pays va bouger les hommes de bonne volonté, les catholiques et les hommes de bonne volonté, et qu'ils vont davantage s'engager dans la politique. Pour prendre le cas spécifique alors des catholiques français, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une désaffection de la politique par les catholiques depuis très longtemps, et qu'on n'a pas beaucoup de voix qui se fassent entendre dans le domaine politique à l'heure actuelle, avec deux catholiques qui disent qu'ils le sont, qui affirment qu'ils le sont et qui veulent vivre ces valeurs-là. De ce point de vue-là, la situation est un peu désertique tout de même. Ce serait un point de miséricorde de Dieu, si vous voulez bien nous donner des hommes et des femmes motivés, et qui s'engagent dans la vie politique et associative.
Autre chose par rapport à la prière de l'année dernière, qui évidemment abordait le sujet de la famille, et en toile de fond, oui. On avait ce débat sur le mariage homosexuel. C'est une prière qui peut-être a gêné certains catholiques. Comment peut-on faire dans ce cas-là pour parler à tous les catholiques, pour que tous les catholiques fassent la prière ? Est-ce qu'il faut éviter certains sujets ? Est-ce qu'il faut les aborder peut-être de manière plus douce ?
Non, il ne faut pas éviter le sujet, il faut appeler ça un sort. On gênera toujours des gens, vous savez. Et après ça, il faut être respectueux des opinions différentes. Et personne ne force personne. Il suffit de regarder les médias français pour s'apercevoir qu'on ne se gêne pas pour dire beaucoup de choses. Je ne vois vraiment pas pourquoi l'Église se gênerait. Après, il y a une manière de dire les choses, mais la manière dont les choses avaient été présentées il y a un an n'était pas brutale. Je crois d'abord qu'il faut prier pour la paix en France. Je pense qu'il faut prier pour la paix des cœurs. Et je dirais, quelles que soient les opinions des gens, je crois qu'il faut que le Seigneur enlève toute brutalité de l'esprit des gens, quelles que soient leurs opinions. Il faut prier aussi pour que des solutions apparaissent. Et alors après, chacun prie à sa manière. Je pense aussi, et je le dis très simplement, qu'il faut prier pour que la France demeure une démocratie. C'est-à-dire un pays de liberté, où on puisse parler, où on puisse dialoguer. Je ne suis pas certain que nous soyons sur cette route.
Des propos recueillis par Maxime Babser. Toujours en France, Lourdes accueille ces jours-ci jusqu'au 16 août le 140e pèlerinage national. Cette édition est placée sous le signe de l'année de la foi, mais aussi de la rencontre. Ce sont des milliers de fidèles, malades, handicapés, hospitaliers, bénévoles et pèlerins valides qui participent à cette démarche animée par la famille de l'Assomption et organisée par l'association et l'hospitalité Notre-Dame de Salut. Le pèlerinage a été maintenu malgré les inondations catastrophiques qui ont dévasté les vallées des Gaves au mois de juin, causant d'importants dégâts aux sanctuaires et aux hôtels de la cité mariale. Sous le thème « Lourdes, une porte pour la foi », le pèlerinage est présidé par l'évêque du Havre, Mgr Jean-Luc Brunin, président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Les portes sont d'abord des portes humaines, des rencontres qui nous ouvrent sur le Christ, indique le père Fabien Lejeune, directeur du pèlerinage. Une place importante est consacrée aux familles et aux jeunes, mais également aux personnes en situation de grande précarité avec le Pélé Mosaïque, en partie financé par des donateurs. Le 15 août, on priera pour la France et pour le monde. Dans la soirée, une veillée de prière sera organisée pour marquer le 140e anniversaire de la basilique Saint-Pie-X. Et à Paris, à l'occasion de la fête de l'Assomption, la cathédrale Notre-Dame se prépare à accueillir près de 150 000 personnes, pèlerins et visiteurs du monde entier. Cette année, les célébrations s'inscrivent dans le cadre des festivités organisées pour le 850e anniversaire de la cathédrale. Ce mercredi soir, pour la 10e année consécutive, aura lieu la procession fluviale sur la Seine. Xavier Sartre.
Les fidèles monteront à bord d'une quinzaine d'embarcations, précédées par la statue en argent de la Vierge offerte par le roi Charles X. La procession fluviale, qui fera le tour des îles de la Cité et Saint-Louis à la lueur des chandelles, sera retransmise sur écran géant sur le parvis de Notre-Dame. Dans l'après-midi du 15 août aura lieu une autre procession, cette fois à pied. En cette année jubilaire, les visiteurs pourront par ailleurs admirer quatre tapisseries monumentales du XVIIe siècle représentant des épisodes de la vie de la Vierge Marie. Elles sont exposées depuis le 27 juillet et jusqu'au 8 septembre dans la cathédrale. 14 tapisseries avaient été confectionnées pour orner le cœur de la cathédrale suite aux vœux de Louis XIII. En 1638, il avait consacré le royaume de France à la Vierge Marie. Un siècle plus tard, après des travaux de rénovation à Notre-Dame, ces chefs-d'œuvre furent vendus à la cathédrale de Strasbourg, où ils sont toujours conservés et suspendus dans la nef pendant les temps de l'Avent et de Noël.
Et à l'occasion du 850e anniversaire de Notre-Dame, le pape François a adressé un message à l'église de Paris. Il s'unit de grand cœur à la prière des fidèles en ce 15 août et accorde une affectueuse bénédiction apostolique à l'archevêque, le cardinal André XXIII, au clergé et aux fidèles parisiens, ainsi qu'à toutes les personnes qui participeront aux célébrations jubilaires. Sachez par ailleurs que c'est le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège, qui présidera les 12 et 13 octobre le pèlerinage international au sanctuaire de Fatima au Portugal. La reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens se fait non sans heurts. Ce mercredi, les deux parties doivent se retrouver à Jérusalem pour reprendre leurs discussions et sortir de l'impasse. Mais quelques heures avant la rencontre, Israël a annoncé avoir donné le feu vert à de nouvelles constructions de logements dans la partie est de Jérusalem. Une mesure très critiquée côté palestinien. De leur côté, États-Unis et Union européenne exhortent chacun à s'abstenir de toute démarche de nature à faire dérailler les négociations. Alors comment les chrétiens de Terre Sainte vivent-ils ce nouvel épisode? Ont-ils leur mot à dire dans ce processus? Nous avons posé la question à Mgr William Chomaly, évêque auxiliaire et vicaire patriarcal pour Jérusalem.
La reprise des discussions est une chose merveilleuse en soi, car nous avons prié des années pour cette reprise. Par ailleurs, la décision israélienne de reprendre la construction des colonies ne vient pas au bon moment.
Est-ce que vous pensez, malgré les faits, qu'il y a une réelle volonté de paix de part et d'autre pour résoudre ce conflit?
Au point point de vue du peuple, le peuple veut la paix, parce que les gens sont fatigués de faire la guerre. Au niveau politique, les Palestiniens désirent la paix fondée sur deux États avec la frontière de avant juin 1967. Maintenant, les Israéliens ont peur de signer à partir de ce principe. Donc, il n'y a pas une tranquillité complète chez les Israéliens sur le fait qu'un État viable aurait lieu à côté d'Israël.
Vous avez parlé de la fatigue des peuples qui ne voient toujours pas la paix. On a l'impression que les peuples palestiniens et israéliens sont résignés, mais on se demande pourquoi il n'y a pas plus de manifestations de cette fatigue, de cette colère finalement face à l'impasse.
Bon, il faut lire les journaux locaux. Les gens manifestent, les gens sans travail, la difficulté de joindre les deux bouts, d'avoir un salaire qui suffit jusqu'à la fin du mois, de payer la scolarité des enfants, le loyer de la maison. Bon, nous sentons avec les gens, il y a beaucoup de difficultés économiques. Mais par ailleurs, il faut dire qu'il y a une grande joie, une allégresse, même au milieu de cette fatigue, il y a un brin d'espoir.
Est-ce que vous avez le sentiment, Mgr Chomali, que la voix des chrétiens est suffisamment écoutée, suffisamment entendue dans ce processus?
Les chrétiens font partie du tissu social palestinien. C'est une voix modérée. D'ailleurs, la voix actuelle des Palestiniens, représentée par Mahmoud Abbas, est très modéré. Et il y a des chrétiens qui font partie des négociations aussi. Donc leur voix, je pense qu'elle est écoutée. Je répète, c'est une voix modérée. Et toujours la modération prévaut à la fin.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Dans le cadre de nos rediffusions estivales, nous partons à présent pour Manille, capitale des Philippines, à la rencontre d'Arthur, 29 ans, volontaire auprès de l'association Enfants du Mékong. Il s'est engagé en collaboration avec l'association locale de Manille auprès de jeunes philippins tout juste sortis de prison. Objectif, leur réapprendre à vivre en société, les former et les accompagner sur le chemin de la réinsertion et de la rédemption. La mission est loin d'être facile, mais Arthur garde confiance en l'être humain et en ses capacités. Manuela Afigi l'avait interrogé en décembre dernier.
Ils ont tous été en prison, un minimum un an, deux ans, et ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 ans, en sachant que c'est des prisons pour mineurs, c'est des centres de détention pour mineurs. Pour ces centres-là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent retourner à l'école. Et ces jeunes qui sont dans ces prisons-là, c'est des jeunes qui ont commis des crimes avant 18 ans. Et nous, on s'occupe vraiment de cette tranche d'âge-là. C'est des jeunes entre 16 ans et 23 ans. On les piste, entre guillemets, dans ces centres de détention. Si on estime qu'ils ont cette envie véritablement de changer, c'est là où ils intègrent notre programme de formation. Il va y avoir un guide spirituel, il va y avoir un responsable de formation, il va y avoir un éducateur, une assistante sociale. Et régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois, en fonction des prisons, nous organisons des formations et nous accompagnons chaque jeune dans leur cheminement.
Comment se passe la réinsertion une fois que ce programme de formation est terminé?
Nous avons quelques partenariats avec des entreprises qui nous permettent de faciliter l'accès à la réintégration. Parce que ce n'est pas forcément facile pour eux en régional, parce que par exemple, ils vont avoir des tatous qui marquent leur passage en prison. Parce qu'en gros, les Philippins qui ont des tatous, pour la plupart d'entre eux, ça veut dire qu'ils sont passés par la case prison ou qu'ils ont appartenu à des gangs. Donc c'est assez discriminant pour travailler. Voilà, donc on travaille beaucoup là-dessus. Après, on les aide aussi beaucoup sur l'accompagnement humain qui fait que on essaie de les aider à être vraiment indépendants parce qu'ils ont quand même connu de sacrées horreurs, mais c'est aussi, malgré tout, c'est eux qui ont fait ce choix-là. Donc on veut aussi les confronter à la vie réelle tout en les accompagnant sur le côté professionnel, sur le côté personnel. Et notre idée, c'est que ça soit vraiment des individus qui deviennent autonomes et qui deviennent aussi des agents de moteur au sein de leur communauté et au sein du pays.
Ma question va vous sembler peut-être un peu naïve, mais est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez concrètement des résultats?
Sur les résultats, on est plutôt satisfait parce qu'il y a 90% des jeunes qui n'ont pas récidivé. Donc là-dessus, on est satisfait. Alors évidemment, on aimerait toujours plus, on aimerait toujours que les jeunes que nous accompagnons aient un meilleur métier ou qu'ils arrivent vraiment à se stabiliser. Mais quand on considère leur passé, on a découvert il n'y a pas si longtemps qu'il y a à peu près 90% de ces jeunes qui ont été violés. C'est des jeunes qui mangent peu, qui mangent mal. Surtout, moi, c'est le point le plus important, c'est qu'ils n'ont pas de dignité, ils n'ont plus de dignité. Malgré leur l'aspect extérieur, ils vont sourire, ils vont être très gentils, parce que c'est souvent la caractéristique des Philippins, ils vont être très accueillants. Puis finalement, derrière, c'est une réalité de vie qui est assez atroce. Et nous, c'est vrai qu'on peut se sentir assez impuissant. Mais finalement, avec de l'énergie, avec des compétences, en acceptant de passer beaucoup de temps aussi, il y a des changements qui sont.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. Et je terminerai par ce tweet du pape François. Être fils de Dieu et frère entre nous, voilà le cœur de l'expérience chrétienne. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous rejoindre également sur notre site internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.